ne sait pas, l'homme contemporain ne sait pas faire avec, avec son savoir. Il ne sait pas faire avec son savoir. Puisque, ça dépend. On peut évidemment tirer les difficultés de toutes sortes de côtés. Hein. On peut amener les problèmes du côté du discours de la science, on peut les ramener du côté de la croissance, on peut les ramener du côté des présupposés d'économie, du côté du risque, du côté de la démesure, du côté de la servitude formelle, une forme renouvelée de la servitude volontaire de la poésie. On peut les ramener du côté de la démocratie qui est menacée, ou de l'impossible moralisation du capitalisme, c'est-à-dire que tout ça sont des thèmes que l'on pourrait aborder successivement pour ne rien oublier. Alors, je ne sais pas quel est le choix que je vais
faire. Il y a un point que j'ai bien aimé dans ce livre, l'histoire de la pensée PowerPoint. Explique-moi un peu ce que tu as mis en évidence dans ça, parce qu'on a déjà fait.
Oui, alors je sais que ça te plaisait bien, donc alors je vais reprendre quand même le bouquin parce que.
Aujourd'hui cette invasion, cette technique PowerPoint qui fait qu'il n'y a presque plus un exposé dans un colloque qui est possible sans avoir en même temps que quelqu'un parle, on se demandait pourquoi il parle encore, parce que de toute façon ça défile l'image de ce qu'il a d'essentiel à dire, et en même temps il y a toute cette stratégie de soutenance à la communication qui vient presque finalement d'ailleurs complètement faire disparaître la pertinence de la rencontre qu'on peut avoir avec quelqu'un qui s'exprime un orateur, éventuellement. Ça disparaît complètement au profit d'une sorte de communication la plus adéquate possible. Mais je trouve que la manière d'en parler,
je n'ai pas de mérite particulier parce qu'il y a un excellent bouquin qui est sorti qui s'appelle La pensée PowerPoint, dont je me suis inspiré et d'ailleurs je cite, c'est Frommer qui l'a sorti. Je trouve que PowerPoint est effectivement un bon exemple, hein, c'est pour ça que je l'ai repris, de la folie qui me guette, quoi, hein, et de l'hubris, de la mesure dans laquelle on se trouve. C'est une méthode de communication qui est probablement la plus usitée. Hein. Il n'y a pas une conférence, pas un colloque, pas une communication qui se fait sans PowerPoint. Mais ça marche comment cette affaire? Eh bien, ça marche par l'emploi immodéré de verbes à l'infinitif. Évaluer, conquérir, optimiser, cibler, enfin ça fait partie de tous ces mots de valise qui sont à la mode et qui font partie de la nouvelle langue du néolibéralisme. Alors, PowerPoint a également l'inconvénient de donner l'illusion de l'ordre et de la maîtrise. En fait, ces énoncés sont à la fois normatifs et dépersonnalisants. Pourquoi ? Parce que PowerPoint atomise le discours, l'énonciation subjective en unité signifiante. C'est ça la subversion exercée par cette méthode de communication en saupoudrant le discours d'une multitude de verbes de non seulement de verbes d'action, mais aussi d'expressions auxquelles nous ne pouvons pas raisonnablement nous opposer. Exemple, une réorganisation fondée sur la maîtrise des coûts. Qui peut s'opposer à ça?
Des coûts. C'est quand même quelqu'un qui a écrit ça.
C'est un humain qui a écrit ça.
Incontestablement.
Et c'est un humain également qui dit, par exemple, qu'il faudra améliorer globalement les performances de l'entreprise. Bien sûr, ce sont des humains qui...
Ben oui, mais dans un livre, c'était la même chose. Il aurait écrit à la radio, c'était la même chose. Ah, c'est pas comme PowerPoint. C'est l'usage. C'est un outil.
Oui, mais sauf que PowerPoint est un...
Non, mais ça, c'est... Si vous me permettez, c'est une question intéressante. Est-ce que c'est un outil? Parce que c'est la tête du livre. Hein. C'est qu'une série d'outils finissent par nous déterminer par un moyen de penser. Ah, c'est tout en jeu. Vous dites que c'est un outil Oui, d'accord. C'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Et moi, je trouve ça que la télévision peut être un outil. Sauf que forcément, la télévision finit à un moment donné de façon d'une telle manière de penser que ça influe sur tout ce qu'on en cause. C'est un outil, la question, c'est un outil de formatage des esprits qui postule l'anesthésie critique. C'est-à-dire que, ça postule l'anesthésie critique pour créer les conditions d'une résignation douce dont la contrainte passe totalement inaperçue. Oui, c'est ça, c'est ce que j'analyse, c'est ce qu'analyse Robert. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil innocent. C'est un outil extrêmement tendancieux qui met en plus le public dans un rapport de complicité avec cette prestation.
On va prendre quelque chose que je trouve très qui va tout à fait dans le questionnement qui est là. Est-ce que c'est la même chose de regarder la télévision ou de regarder la télévision? La première manière de la regarder, ça peut être de décider chez vous que vous rentrez, que vous avez envie de voir un film qui justement passe la télévision, pourquoi pas, qui est intéressant ou pas intéressant, de faire un film pour vous distraire, pourquoi pas. C'est une façon de regarder la télévision. Une autre façon de regarder la télévision, c'est de vous laisser aller parce que vous êtes vraiment un peu tellement fatigué de votre journée que vous ne faites plus rien d'autre que de zapper d'une chaîne à l'autre en essayant de voir au fond laquelle va être capable de vous accrocher, de quelle façon de vous y rester un peu plus ailleurs.
Dans les deux cas, c'est le choix de l'individu.
Dans
les deux cas, c'est le choix de l'individu.
Eh bien non, justement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire ça. Ça ne suffit pas. Je crois que c'est insuffisant de dire comme ça. La preuve, c'est que la manière d'être scotché par un appareil de télévision est une façon